Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Le professeur Gilles Pialoux est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, professeur Pialoux. On entend les mesures annoncées par le gouvernement qui dit qu'il y aura sans doute plusieurs départements dans lesquels le couvre-feu va passer lui aussi à 18h, une dizaine de départements supplémentaires confirmés. Est-ce que vous avez le sentiment, de manière générale, qu'on prend en ce moment les bonnes mesures face à la maladie, face à l'épidémie?
Bah ça, c'est l'avenir immédiat qui le dira. On est dans une situation, nous les soignants, et je vois ça tous les jours dans mon service, où on a l'impression effectivement que les mesures sont prises dans l'urgence, parfois déprogrammées pour ce qui est du programme vaccinal, comme vous avez pu largement le commenter.
Oui.
C'est difficile, personne n'a la bonne recette. Ce qu'on sait, c'est que là, on est toujours en train de courir après une épidémie. Maintenant, c'est les variants. C'est assez désolant, alors que on devrait être dans une période, je le dis, parce que je me suis fait vacciner il y a 2 jours, et je pensais que ça serait un moment de joie et d'allégresse, si je puis dire. Et puis c'est noyé dans toute cette problématique de la troisième vague, de savoir comment on va reconfiner ou couvre-feu, si je puis dire. Mmh. Et puis surtout, le problème, c'est pas tellement le couvre-feu et le confinement, c'est comment on en sort.
Alors, on va essayer de prendre les problèmes un par un. Vous avez parlé du variant britannique. Là, on apprend qu'il y a au moins 2 clusters, hein, en Ile-de-France, avec notamment quelqu'un qui a travaillé dans des écoles, et un autre en Bretagne, du côté de Rennes. Vous, ce variant anglais, dans quelle mesure vous inquiète-t-il ?
Ce variant anglais, il nous inquiète pour 3 raisons. La première, c'est que la France n'a pas les moyens, il faut le dire, n'a pas les moyens, alors peut-être qu'elle va les avoir dans les jours qui viennent, n'a pas les moyens, contrairement à la Grande-Bretagne, d'avoir une épidémie comme ça des génomes. Pour donner un exemple, quand l'Angleterre, avec sa base de données nationale, produit 146 000 génomes, ce qui est carrément 10% de la population des personnes infectées en Grande-Bretagne, la France en fait 2900, donc on n'est pas du tout dans le même
rapport. Ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, être capable d'identifier exactement de quel virus souffre un patient, c'est ça ?
Voilà, de surveiller ce variant, et puis c'est toujours pareil, de jouer, si je puis dire, le coup d'après. C'est-à-dire que des variants, il y en aura d'autres, il y en aura des plus compliqués que d'autres. Et effectivement, celui de Grande-Bretagne est plus compliqué parce qu'il augmente la transmissibilité, ça semble assez clair maintenant. Et donc, évidemment, il va avoir une influence sur le fameux R0, c'est-à-dire le facteur de transmission. Donc ça, c'est la première inquiétude. La deuxième, et je suis moins inquiet, c'est est-ce qu'il aura un impact sur la réponse vaccinale? Et comme vous le savez, Jean-François Delfraissy a dit qu'on devrait avoir cette information grâce aux Anglais dans la semaine prochaine.
Cette campagne vaccinale, elle semble démarrer pour de bon. Est-ce que vous êtes rassuré d'avoir vu le gouvernement changer de braquet sur le sujet?
Alors là, effectivement, je pense que ça n'a pas été une polémique inutile. Ça a été une polémique très utile. Pour ma part, j'avais co-signé une tribune dès le 16 décembre en comprenant pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui excluait quasiment la totalité des soignants. Et effectivement, on a vu cette accélération. Bon, pour tout vous dire, sur le terrain, nous, on a fait lundi-mardi ce qu'on aurait dû faire en 1 mois et demi. Mais on est content. On vaccine tous les jours, on a extrêmement de volontaires. Il y a la médecine de ville qu'il faut pas oublier. Ils sont oubliés pour l'instant et j'espère qu'on va pouvoir organiser des centres de vaccination pour les soignants de ville.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les vaccins, vous, à l'hôpital Tenon, vous les avez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le plan de vaccination proposé par le gouvernement et la Haute Autorité de Santé, c'est le bon ?
Alors écoutez, je veux pas avoir l'air d'être toujours celui qui dénonce. Je trouve que
non, mais il faut dire les choses parce qu'on est tous un peu perdus.
Ce plan de la Haute Autorité de Santé, il a été écrit le 27 novembre. Et ben moi, je trouve qu'il n'est plus dans la dimension qui est celle qu'on vient de discuter. C'est-à-dire à la fois d'une circulation du virus qui est importante. On avait misé, le président de la République l'avait dit, sur 5000 cas, on est à 20-25 000. C'est une première chose. On a une circulation de variants qu'on n'avait pas vu venir, qui vont augmenter évidemment à la fois les clusters et à la fois le niveau de transmission. Et donc il faut augmenter la voilure. Vous avez entendu comme moi le président de la République dire on a commandé 200 millions de doses. Donc normalement, on a une logique qui ferait qu'on ne devrait pas avoir à gérer la pénurie de doses. Alors quand vous regardez l'avis de la Haute Autorité de Santé du 27 novembre, qui a guidé la politique du gouvernement, les 3 premières phases, ce sont des phases qui tiennent compte d'un problème d'approvisionnement. Donc ils avaient anticipé qu'il y aurait un problème d'approvisionnement.
C'est incompréhensible
pour les Français, c'est incompréhensible pour nous.
Parce que, professeur Pialoux, en même temps, tout ça n'a pas l'air très simple. Ce vaccin, il est dur à conserver. Il y a beaucoup de contraintes aussi, il faut en tenir compte de ça, non ?
Mais bien sûr qu'il y a des choses qui sont... D'abord, je crois que c'était assez facile de savoir que si on commençait par les EHPAD, ça serait compliqué, parce qu'effectivement, il faut aller dans toutes les EHPAD, que les EHPAD n'ont pas l'infrastructure pour vacciner, qu'ils ont du personnel qui est quand même déjà... Quand vous avez 245 résidents dans un EHPAD, vous comprenez que c'est très compliqué de leur demander 5 jours avant une consultation, puis la vie, comme ça a été présenté avec beaucoup d'humour tout à l'heure, la vie des personnes responsables, puis de vacciner, puis de les surveiller, puis après de les refaire venir 21 jours, etc. Donc effectivement, ça c'était prévisible, très clairement sur la question des EHPAD. Et puis deuxièmement, les EHPAD, c'est pas tous des personnes âgées de France. Les EHPAD, c'est 600 000 personnes, et si vous regardez rien que les plus de 25 ans, vous avez autour de 2 millions de personnes. Donc on a loupé aussi des gens dans cette organisation.
Donc là, vous nous dites en clair, ça accélère, mais il faut accélérer encore davantage, il faut aller encore plus vite, hein, c'est ça?
Ben, je crois que la circulation du virus, plus la question des variants, fait que on ne peut pas se permettre de dire on va au rythme qu'on va. Il faut aller à un rythme accéléré. Beaucoup de pays nous ont montré l'exemple. Regardez Israël qui a vacciné plus de 12% de sa population. Donc on devrait avoir moyen de ça. On est quand même un pays normalement très organisé. Mais voilà, le problème du pays très organisé, c'est qu'on essaie un pays qui est dans un délire de protocolisation qui étouffe la dynamique. Et il faut une dynamique, une santé publique qui s'adapte à la dynamique. Et le virus est très, très, très dynamique, comme on n'arrête pas de le dire tous les jours.
Voilà, et on apprend à l'instant que les plus de 75 ans pourront se faire vacciner dès lundi prochain, professeur Pialou. C'est une très bonne nouvelle. Vous avez cité le nombre de contaminations des dernières 24 heures, enfin les chiffres d'hier, plus de 25 000. On est interpellé par ce nombre de contaminations, parce qu'on nous dit il y a le couvre-feu, on respecte le couvre-feu, on dit il y a le confinement, on respecte le confinement. Et au bout d'un moment, on se demande, est-ce qu'on a raté quelque chose ou est-ce qu'on fait tout ce que l'on peut face à un virus qui est décidément plus fort que nous?
C'est une question philosophique, je crois que pour l'instant...
Médicale aussi.
Cette année, oui, enfin, philosophique et médicale et politique, c'est que si on regarde cette année qui vient de se passer, effectivement, on a eu de cesse de courir derrière et de ne pas avoir un temps d'avance. Donc ça a été dit dans le sujet précédent, avant le journal, il faut anticiper. C'est-à-dire par exemple la circulation du virus dans les eaux usées, c'est une bonne technique parce que on sait très bien que les marqueurs de réanimation, de mortalité, de remplissage des hôpitaux, ce sont des marqueurs tardifs. Et ça a montré leur efficacité, le confinement par rapport à ces marqueurs tardifs. Mais voilà, il faut trouver des moyens. Il y en a. Il y a une politique de dépistage. Je ne sais pas où en est le dépistage dans les métropoles, par exemple. On n'en parle plus. Et dépister dans les métropoles de façon régulière, c'est une façon d'anticiper sur la circulation du virus, comme l'est d'ailleurs l'analyse des eaux usées. Donc on a les moyens d'être avant les marqueurs de réanimation et d'hospitalisation.
Après la première vague, vous aviez écrit un livre, hein, « Nous n'étions pas prêts » chez Jean-Claude Lattès. À vous écouter, je me demande si on a vraiment progressé pour la deuxième vague, si elle a vraiment été mieux gérée que la première.
On apprend en courant. Je pense qu'effectivement, ce livre est malheureusement complètement d'actualité, puisque dans la deuxième vague, il y avait aussi une impréparation terrible. Enfin, cet été a été particulièrement, et la rentrée a été particulièrement cruelle sur le plan de la circulation du virus. On apprend, mais bon, il y a aussi des chiffres qui inquiètent. Hein. C'était, si vous regardez le nombre de morts, il y a eu 30 000 morts pendant la première vague, à peu près, hein. 30 000 pendant la deuxième vague, mais cette deuxième vague, avec une prise en charge qui était beaucoup plus efficace, moins de mortalité en réanimation, qui a été diminuée presque de moitié. Donc ça veut dire que le compte est pas bon et que effectivement on apprend, mais que le virus nous apprend tous les jours. Et ce variant anglais en est un exemple crucial.
La troisième vague est inévitable, elle vous semble inexorable?
En fait, on joue sur les mots. C'est-à-dire que cette deuxième vague s'est arrêtée à un haut plateau, on l'a dit depuis plusieurs fois. Et à partir de ce haut plateau, il y a un redémarrage. Donc après, c'est une querelle sémantique. Mais oui, il y a une circulation importante du virus. Et je pense que Jean-François Delfraissy l'a dit suffisamment. Il faut s'attendre avec l'effet, effectivement, du brassage de population pendant les fêtes, même s'il a été très régulé par les décisions du gouvernement, et puis le retour aux écoles, contrairement à beaucoup de nos pays voisins, plus ces variants fait qu'effectivement on a une possibilité non négligeable d'avoir la reprise d'une troisième vague importante.
Vous parlez des écoles, ça sera ma dernière question. On a rouvert les écoles. Est-ce que d'un point de vue médical, vous nous dites ce soir, si on veut s'en sortir, il faut un, ce que vous avez déjà dit, beaucoup vacciner plus vite et vacciner plus de monde, et deux, confiné aussi comme le font d'autres pays en attendant qu'on soit vacciné ou pas ? Est-ce que c'est ça la vraie solution ? Si on fait abstraction de toutes les contraintes économiques qui sont réelles et qui ne sont pas négligeables.
Non, mais entre les deux, vous avez une politique qui a été abandonnée pendant un moment, faute de moyens, c'est l'isolement, le dépistage isolement. Cette technique, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Parce que pendant des mois, nous n'aurons pas les fruits d'une vaccination et d'une immunité collective qu'on espère, parce que vont se rencontrer ceux qui ont eu l'immunité par l'infection et ceux qui ont eu l'immunité par le vaccin. Mais ça, tout le monde le sait, ça ne sera pas avant le printemps, voire l'été, voire après. Donc, les mesures barrières, les fermetures effectivement des lieux où circule le virus, et effectivement on a signalé que ce variant était possiblement plus circulant chez les jeunes, pose effectivement la question de la fermeture des établissements. Mais vous savez aussi que c'est une décision politique, parce que quand vous fermez les écoles, vous empêchez aussi les infirmières, les aides-soignantes, pour certaines, d'aller sur leur lieu de travail.
Merci beaucoup, professeur Pialoux, d'avoir été en direct ce soir avec nous sur RTL. Merci à vous. Actualité américaine oblige. Julia Molcou nous emmène à Washington dans un instant. Et dans la culture de l'actu, il n'y a pas qu'un seul Washington, loin de là.
RTL Soir.